Luc chapitre 3, versets 15 à 17 et versets 21 et 22. Luc chapitre 3, versets 15 à 17 et le verset 21-22. Au nom de Jésus. Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur a dit alors à tous, moi, je vous baptise avec de l'eau, mais quelqu'un de plus puissant que moi va venir. Je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il vient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Après que tout le peuple eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. Amen. Ici, déjà, la façon dont le découpage textuel, si vous avez remarqué dans notre lectionnaire, a été fait, nous révèle déjà quelque chose dans le texte. Chaque début des deux paragraphes, si vous avez suivi la lecture, au premier paragraphe, il est dit, comme le peuple était dans l'attente. Et au tout début du deuxième paragraphe, quand tout le peuple reçut le baptême et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Comme le peuple, quand tout le peuple. Donc nous pouvons voir par là que le Messie, ou le Christ, celui qui a été choisi pour sauver le monde, fait partie du peuple de Dieu. Déjà là, la conception du Messie est totalement différente de ce que nous attendions. Parce que pour nous, un Messie, c'est quelqu'un qui doit venir de là-haut. Quelqu'un qui est parachuté. C'est un peu comme les super-héros que les enfants connaissent, qui tombent de nulle part. Voilà le Messie. Non! Il était parmi le peuple, ce Messie. Il est au milieu du peuple. Et la manière dont Luc raconte le récit, il nous donne une description que ce Messie annoncé par Jean-Baptiste, même s'il est le fils bien-aimé du Père, comme on vient de lire au verset 22, il ne le présente pas comme quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, de parachuté venant de nulle part, mais un frère, parmi ses sœurs. Toutefois, Luc souligne bien que même s'il fait partie du peuple, ce n'est pas le peuple qui l'a choisi, mais il a été désigné d'en haut avec la symbolique de l'Esprit Saint qui descend sur lui sous la forme d'une colombe. Donc il y a déjà ici deux choses contradictoires. Il fait partie du peuple, il vient du peuple, mais ce n'est pas le peuple qui l'a reconnu, ce n'est pas le peuple qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a désigné. C'est pour ça qu'on l'appelle le Christ, le oint de Dieu. Il connaît réellement les besoins et les malheurs du peuple. Il fait partie du peuple. Et l'évangéliste Luc, c'est la spécificité de Luc, celui qui est très proche des plus faibles, des petits, ça c'est l'évangile de Luc, il met bien cela en exergue avec ce qu'il a dit au verset 15. Le peuple était en attente, le peuple était fatigué, le peuple espérait quand est-ce qu'il y aura un Messie qui viendra leur sauver. Et vous voyez comment se manifester cette attente, ils avaient porté tout leur espoir sur Jean-Baptiste. Ils croyaient que oh, c'est peut-être lui. Lorsqu'ils ont vu son charisme, sa façon de parler, la fougue que cet homme de Dieu avait. Alors tout le peuple espérait, ah, enfin voici le Messie tant attendu. Un monsieur qui crie fort dans le désert. Et il voyait en ce Jean-Baptiste qu'il était un monsieur différent des autres, différent de tout le monde. Il vivait à l'écart de la société, comme un ermite, un peu en retrait. Alors, l'attention de tout le monde était vers lui, puisqu'il était à l'écart. Or, le Messie qu'il annonçait vit au milieu du peuple, mais pas à l'écart de la population. Et ce peuple était en perpétuelle attente parce qu'il croyait qu'à un certain moment, Dieu n'était plus là. C'était dans la croyance de l'époque. Que Dieu les avait abandonnés. Dieu les a livrés à eux-mêmes face à ces occupants romains qui leur faisaient souffrir. Et ce n'est pas la première fois que ce peuple avait cette sensation d'être abandonné. Si on regarde l'histoire d'Israël, l'histoire ne fait que se répéter. Lors de l'exil et que le temple fut détruit à Jérusalem, tous les leaders spirituels étaient déportés. Même le prophète Daniel, lorsqu'il priait, à chaque fois qu'il montait sur sa terrasse pour prier, il se tournait vers la direction de Jérusalem, vers le temple, qui est considéré comme étant le siège de l'Éternel. Donc même Daniel croyait que Dieu était encore à Jérusalem. Les Israélites se considéraient être loin de leur Dieu, tout en étant en exil à Babylone, parce qu'ils sont loin de Jérusalem. Mais tout au long de leur captivité babylonienne, Dieu a montré le contraire. Dieu les a prouvé qu'ils vivaient avec eux en exil. Oui, Dieu aussi était à l'exil avec son peuple. Et la preuve, Dieu avait fait lever des prophètes parmi eux, parmi les captifs, Daniel, Ézéchiel qui n'était qu'un prêtre, et tout à coup, il se leva en prophétisant. Jérémie, c'est un prophète de l'exil. Ésaïe, tous les grands prophètes que nous connaissons, ce sont les prophètes de Dieu en exil. Ce qui prouve que Dieu continue à parler à son peuple tout en étant en exil. Et on voit ici la similitude avec Jésus. Il est venu au milieu de son peuple dans une circonstance difficile. Et même si on ne l'a pas lu, le lectionnaire a sauté le verset 18 et 20, qui est fait exprès par le lectionnaire. J'en parle un petit peu, qui parle d'Hérode. Hérode qui avait donné l'ordre d'enfermer Jean-Baptiste. Et on voit dans ces versets, que cela confirme que contrairement à Hérode, qui est censé être le berger de son peuple parce qu'il était le roi, entre guillemets, choisi par les Romains, ce roi-là, ce berger-là, il ne vit pas avec son peuple tout en étant au milieu du peuple. Il était dans son palais. Il ne subit pas que ce que son peuple a subi. Au contraire, ce roi, il vivait dans l'opulence. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il ne connaissait pas la souffrance du peuple. Et à un certain moment, cette foule qui suivait Jésus voulait le prendre de force pour le nommer roi dans les évangiles. À chaque fois, le peuple voulait le prendre de force. Viens, on va te placer comme roi d'Israël. Et au temps de Jésus, il y avait pas mal de patriotes, comme les zélotes, ceux qui se déclaraient comme patriotes, les nationalistes. Il y avait aussi les pharisiens qui se constituaient en parti politique proche du peuple. Mais non, les gens n'ont pas eu cette vision d'un berger tout près d'eux. Ils voyaient en Jésus le vrai berger, car lui, il était humble. Il n'était que le fils du charpentier. Il vient du peuple, pas comme les pharisiens qui avaient leur intérêt, leur avantage parmi les Romains. C'est un vrai patriote, Jésus-Christ. D'ailleurs, certains politiciens exploitent cette image de Jésus comme un révolutionnaire, quelqu'un qui vient du peuple. Et les populistes même utilisent certains passages de l'Évangile pour réclamer leurs droits. Mais Jésus a refusé cela. Je ne suis pas roi parce que le peuple l'a reconnu, parce que c'est le Père qui m'a choisi. Et au verset 21, quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. C'est un passage difficile dans l'Évangile. Il recevait le même traitement que tout le monde. Il n'y a pas de traitement de faveur, même pour le Messie. Il devait faire la queue comme tout le monde. Vous imaginez un peu, dans la foule, tout le monde venait devant Jean-Baptiste et Jésus attendait son tour aussi. Il ne disait pas, mais je suis le Messie, poussez-vous, c'est moi maintenant. Il attendait son tour. Il recevait le même traitement que tout le monde, même si le sens de son baptême n'est pas la même. Mais à son tour, lorsque Jésus fut baptisé, alors là, il nous fait partager avec lui aussi, son baptême à lui. Et c'est quoi le baptême de Jésus? Mourir avec lui et ressusciter avec lui. Marc chapitre 10, verset 39, ils lui dirent, nous le pouvons. Jésus leur répondit, la coupe que moi je bois, vous la boirez et vous recevrez le baptême que je reçois. Donc le baptême de Jésus, c'était l'annonce qu'il va mourir et qu'il va ressusciter le troisième jour. Ce n'était pas le même baptême que nous avons eu. Et dans Romains chapitre 8, verset 17, nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. C'est ça le baptême de Jésus. Nous participons à la souffrance du Christ et aussi nous partageons la gloire de Jésus-Christ. Le Messie présenté par l'évangéliste Luc ici est le Seigneur qui fait toutes les choses pour l'homme. C'est le Seigneur qui vit avec l'homme. Telle est l'image de la vie éternelle, chers frères et sœurs en Christ. À l'image du jardin d'Éden, Dieu qui a tout créé pour l'homme, bien sûr, afin qu'il puisse vivre dans la joie. Mais il y a un aspect que nous avons oublié dans l'histoire du jardin d'Éden. Dieu a créé le jardin d'Éden pour l'homme, mais aussi pour qu'il puisse vivre avec lui. Il souhaite vivre avec l'homme qu'il a créé. Je ne sais pas si vous avez bien lu Genèse chapitre 3, verset 8. C'est un peu rigolo, mais ça fait réfléchir. Regardez Genèse chapitre 3, verset 8. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Donc, nous voyons ici un Dieu qui vit aux côtés de l'être qu'il a créé. Il n'a pas créé ce monde et il est resté en haut, mais il est venu les rendre visite de temps en temps dans le jardin. Et l'auteur du livre de la Genèse utilise même des termes anthropomorphiques, des termes qui montrent que Dieu, normalement un Dieu ne se promène pas, mais c'est fait exprès d'utiliser ce terme, Dieu qui se promène aux côtés du couple Adam et Ève. C'est magnifique comme image. La vie éternelle n'est pas une vie éternelle si Dieu n'est pas là. Le ciel n'est pas le ciel si Dieu n'est pas là. Je l'ai déjà dit ici une fois et je le redis encore. Si le ciel, un jour, Dieu quitte le paradis, le ciel devient un enfer. Ce n'est pas le ciel qui rend la vie céleste attrayante, c'est le Christ qui rend le ciel attrayant. C'est sa présence qui rend le lieu céleste. Donc, l'identité du paradis dépend de la présence du Christ. Alors, si toi, tu as le Christ en toi, alors ton milieu de vie, ton milieu de travail devient comme un jardin d'Éden. Il se promène avec toi tous les jours. C'est ce qu'il veut. Je suis avec vous tous les jours. Oui, voilà l'évangile. Parfois, cette humanité du Christ nous dérange un peu. Si on dit Jésus est Dieu, oui, là, ça va. Mais quand on commence à parler l'humanité du Christ, c'est un peu dur à avaler. Pourquoi Dieu avait-il choisi de venir à travers l'être humain. Il pouvait s'incarner, bien sûr. Tout de suite, il aurait pu descendre du ciel avec un corps. Mais pourquoi il a fallu passer par une femme, par Marie, par Joseph? Il aurait pu tout de suite avoir un corps. Il est Dieu, il est capable de tout faire. Mais non, il a préféré devenir dans le monde en acceptant toutes les réalités du monde. La fragilité, la faiblesse, c'est voulu. Et c'est ça qui le rend mystérieux. Le Fils de Dieu est aussi le Fils de l'homme. Et ce qui dérange notre raison humaine, c'est le fait qu'il partage toute notre humanité. Mais en même temps, il n'est pas pécheur comme nous. C'est difficile à comprendre. Comment ça se fait qu'il partage mon corps, mon humanité, mais il n'est pas pécheur? D'où le thème de notre culte ce matin, il est immanent, il est avec nous, mais aussi il est transcendant, il est parmi nous, mais il est le seul que Dieu trouve comme juste, le Fils bien-aimé. Alors être juste selon la Bible en regardant Jésus-Christ n'est pas un titre honorifique. Rappelons-nous de l'histoire de Noé, lorsque Dieu a décidé d'anéantir l'humanité. Voici ce qui a été dit dans le livre de la Genèse. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains et a décidé de les exterminer. Mais, juste après, il est aussi dit, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Noé est un homme juste et intègre. Et justement, cet homme considéré comme juste, il a reçu une mission de construire l'arche afin de sauver l'humanité. Celui qui est appelé juste a une mission de sauver les autres. Pareil avec Joseph, fils de Jacob. Il a été maltraité par ses frères, vendu comme esclave. Il était le fils bien-aimé de son père. Mais ce titre lui a donné une charge lourde et difficile. Sauver toute la tribu de la famine et leur octroyer une terre d'asile en Égypte en passant par l'esclavagisme. Telle est la réalité du royaume de Dieu, chers frères et sœurs en Christ. Celui qui a le titre de bien-aimé, ce n'est pas un titre honorifique. Le bien-aimé du Seigneur, c'est celui qui doit souffrir pour le peuple. Voici mon fils bien-aimé, ce qui veut dire il va mourir pour vous. Celui qui a reçu le titre de bien-aimé ne se vante pas de cela comme étant un titre de gloire ou d'honneur. Le bien-aimé ou la bien-aimée, bien-aimée sera au service de tous. Nous attendons tellement parfois de recevoir une récompense, une bénédiction, parce que nous avons été déclarés justes. Ah, je me suis bien comporté. Alors Seigneur, accorde-moi les réponses à mes prières. C'est notre raison. Or, ce n'est pas cela, être juste. Si tu es le bien-aimé du Christ, ça veut dire service, sacrifice pour les autres. Au contraire, on va encore t'enlever des choses pour bénir ton entourage. Voilà le bien-aimé. Le bien-aimé, ce n'est pas celui qu'on met au coin pour qu'on puisse apporter toutes les offrandes. Le bien-aimé est celui qui a donné sa vie pour les autres. Et pour résumer, l'hymne aux Philippiens décrit très bien tout ce que nous avons entendu. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Que la gloire soit à notre Seigneur et sa paix pour nous. Amen.